front move.
Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lirons dans le Cantique des Cantiques. Nous avons chanté que la parole du Seigneur nous donne de voir quelques-unes, sinon toutes ses gloires. Et combien il est profitable pour nos âmes de pouvoir toujours considérer les beautés de notre Seigneur. Et nous irons donc dans ce livre qui nous parle en beaucoup de points justement de ces beautés morales du Seigneur qui ont été vues, bien sûr, ici en type dans la personne du bien-aimé. Nous connaissons bien le Cantique des Cantiques, celui qui l'a écrit. Le Cantique au chapitre 1er, verset 1er, on dit le Cantique des Cantiques qui est de Salomon. Salomon qui est aussi nommé Jédida, bien-aimé, a eu à écrire beaucoup de poèmes, à écrire sur beaucoup de choses, il nous est précisé dans les Écritures. Et on peut trouver dans ces quelques passages aussi beaucoup de type qui nous ramène à la personne du Seigneur. Nous lirons chapitre 5. Nous lirons d'abord au verset 2. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Et nous arrivons au niveau du verset 9, que nous lirons jusqu'au verset 16 du même chapitre. Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, ou la plus belle parmi les femmes? Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé que tu nous adjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un porte-bannière entre 10 000. Sa tête est un or très fin, ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau, ses yeux comme des colombes près des ruisseaux d'eau, baignés dans le lait bien enchâssé, ses joues comme des parterres d'aromates, des corbeilles de fleurs parfumées, ses lèvres des lys distillant une myrrhe limpide, ses mains des rondelles d'or, où sont enchâssées des chrysolites, son ventre en ivoire poli couvert de saphir, ses jambes des colonnes de marbre blanc reposant sur des socles d'or fin, son port comme le Liban, distingué comme les cèdres, son palais est plein de douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Dans ce chapitre 5 où la bien-aimée est amenée après des exercices à parler de son bien-aimé, il y a eu un déclic, c'est le verset 2 que nous avons lu, où la bien-aimée, ou la tsunamite autrement appelée, dormait avec un cœur réveillé, mais elle dormait. Et c'est toujours bien pour nous de, et on nous l'a rappelé, je crois, il y a quelques dimanches aussi, que dans la parabole des 10 vierges, eh bien, toutes se sont assoupies et toutes se sont retrouvés dormants, jusqu'à ce qu'on vienne les... ce cri retentisse, voici l'époux. Nous n'allons pas prendre ces images, mais nous prenons une application pour nos propres vies, combien il nous arrive de dormir, combien il nous arrive de... nous assoupir dans nos affections, dans ce monde qui nous propose justement beaucoup de divertissements, beaucoup d'activités pour qu'on ne puisse pas voir, regarder l'essentiel, avoir nos yeux sur le Seigneur, qui est notre bien-aimé, qui est celui qui a ravi nos cœurs par son amour, et ce qui fait qu'elle, elle dormait. Et nous aussi, quelquefois, trop souvent, malheureusement, notre égoïsme fait qu'on regarde à nous, qu'on considère, oui, j'ai pas encore fait ceci, j'ai pas encore fait cela, et au point que on ne regarde plus au Seigneur, nos affections alors s'assoupissent, nos affections alors prennent de la poussière et on s'endort. Mais le Seigneur est toujours là, et c'est lui qui vient. Et ici, pour l'exemple, excusez-moi, on ne va pas voir, on n'aura certainement pas expliqué chaque terme, mais on va prendre juste ce qui peut être pratique pour nos vies. Ici, c'est la voix de, elle précise, mon bien-aimé. Et je pense que c'est aussi le bien-aimé de chacun de nous ici. On l'a dit dans nos prières, si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, encore un jour favorable, aujourd'hui encore le jour du salut. Il est encore temps de se tourner vers le Seigneur. Il est encore un jour de grâce aujourd'hui. Mais pour tous ceux qui, comme la tsunamite, ont reconnu le Seigneur comme leur bien-aimé, eh bien, ils heurtent. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Comme pour dire que dans cette situation dans laquelle la bien-aimée se trouvait, eh bien, elle avait mis de côté le Seigneur. Elle avait laissé le Seigneur dehors, comme il peut arriver justement dans les situations où, pris dans notre égoïsme, dans notre élan de vouloir regarder à nous, eh bien, le Seigneur est laissé dehors. Mais c'est le Seigneur qui vient heurter. Et il y a eu ces exercices qui font que, après, finalement, elle sort, elle va suivre, parce que le Seigneur, justement, veut que nous ne puissions pas seulement nous réveiller d'un assouplissement, mais nous puissions après aller vers lui, que nous puissions réaliser que, comme il est dit, que notre bonheur est en lui. Que l'apôtre pouvait dire, où irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Que nous puissions après, en nous tournant, aller vers lui. Au point que, justement, après avoir été frappé, blessé au verset 7, justement, cette discipline dont chacun de nous a besoin pour qu'on puisse revenir, se jeter au Seigneur, ayant été même blessé par les gardes de la ville, eh bien, elle va présenter alors quelques-unes, justement, de ces gloires dont on nous a parlé, de la personne du Seigneur. Une question lui est posée. Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé que tu nous adjures ainsi? Il y avait cette parole d'adjuration dont nous connaissons l'importance dans les Écritures et elle devait parler. Mais nous voyons ou nous verrons dans la suite que elle va quelque peu répéter ce que, au préalable, le bien-aimé avait dit d'elle, mais c'est dans cet élan d'amour, justement, réponse de l'amour du bien-aimé, eh bien, la conclusion sera, tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Que toute sa personne est adorable et désirable. Et combien le Seigneur, justement, mérite qu'on puisse se pencher sur toute sa personne, que ce soit dans ses ombres des types, mais encore quand on le voit dans les quatre évangiles, toute sa personne nous donne de l'aimer. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Déjà qu'il s'en est vraiment approprié. Ce n'est pas le bien-aimé d'un autre ou d'une autre. C'est mon bien-aimé. Ici, ce sont les affections qui parlent. C'est le cœur qui parle. Ce n'est pas une réflexion du genre, oui, j'ai vu effectivement qu'il est blanc. On peut dire que c'est ceci. Non, il s'en est vraiment, elle en a fait sienne. Cette affirmation. Blanc, justement, on nous parle de cette perfection, de cette glorieuse perfection du Seigneur, mais dans son humanité, on a parlé des évangiles et on a vu, et encore une fois dans notre culte de ce matin, qu'il fallait un homme. On en a cherché, et même Job pouvait dire. C'était même pas la peine de chercher quelqu'un qui viendrait pour se mettre entre les hommes et Dieu. Il n'y en avait personne. Il nous a dit qu'on devait y renoncer à chercher un intermédiaire, à chercher comme un avocat. Mais pourtant, on en a eu dans la personne du Seigneur. Mon bien-aimé est blond et vermeil. Eh bien, cette pureté que l'humanité a tant recherchée, que Dieu exigeait, on l'a eu, on l'a vu, Dieu l'a trouvé, mais nous aussi, parce que il est devenu notre porte-bannière, comme il nous a dit plus loin. on avait besoin d'un homme qui soit blanc et vermeil. Et lui, il a rempli toutes ses qualités et de sainteté, de perfection. Un porte-bannière entre 10 000. C'est une expression qui nous rappelle toujours que le Seigneur, et on l'a aussi dit, est notre chef, la tête glorifiée dans les cieux. Donc celui qui, le porte-bannière, nous savons tous de quoi il en retourne, souvent dans les armées, chaque groupe, que ce soit des régiments ou autres, ils s'identifiaient au front avec des étendards ou bien des drapeaux bien particuliers. Si ceux-ci étaient des cavaliers, souvent on avait des chevaux avec quelque chose montrant, et la puissance et la rapidité, bref. Et pour nous, c'est le Seigneur qui, étant notre porte-bannière, entre 10 000, il est précisé donc pour dire qu'en réalité, il est le seul. Eh bien, c'est lui qui, puisqu'il est arrivé, parce que quand on plantait la bannière ou le drapeau dans le camp ennemi, un endroit souvent visible par tous, eh bien, ça montrait qu'on avait conquis le terrain. Ça montrait qu'on était possesseur des lieux, qu'on venait d'en prendre possession. Et donc, notre porte-bannière, nous aussi, nous savons, notre tête glorifiée dans les cieux, à la droite de la majesté. Nous, un peu aussi en image, comme cette gerbe des prémices, eh bien, nous pouvons dire que le Seigneur, pour nous, ayant déjà accompli toutes ces choses, avec cette place à la droite de la majesté céleste, eh bien, notre assurance, notre victoire est garantie, parce que lui, il a déjà planté son étendard. Un porte-bannière entre 10 000. Est-ce que parmi justement les Juifs au temps du Seigneur, n'a-t-on pas entendu, jamais homme n'a parlé comme cet homme? On en a entendu beaucoup. En ce temps-là, beaucoup disent que c'était l'époque où, et après la philosophie a pris la relève, où l'intelligence humaine passait du temps à réfléchir, à parler, à discourir. Donc il y avait certainement beaucoup de discoureurs, mais on n'en avait pas trouvé comme lui, entre autres. Sa tête est un or très fin, ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau. Encore une fois, la tête du Seigneur, justement, que ce soit par rapport au choix qu'il a eu à faire, aux décisions qu'il a eu à prendre, à la direction qu'il a suivie, nous voyons l'équilibre, nous voyons la perfection des choix, nous voyons la vérité dans ses choix, la clarté des choix, mais aussi la précision, parce qu'il fallait le faire. Depuis ce que nous entendons, qui traverse les cieux, me voici au Père pour faire ta volonté jusqu'à la croix de Golgotha, eh bien, quelle perfection, quelle beauté, mais aussi justement tout cela nous parle de ce côté homme, mais en même temps Dieu, qui ravit nos cœurs parce que, on l'a déjà dit, on avait besoin d'un tel sauveur, qui puisse se tenir pour nous, mais se tenir aussi devant Dieu. Lui, il était pleinement qualifié pour cela. Il nous a parlé aussi un peu de ces boucles, comme on a dit, on ne va pas donner tous les éléments, mais on peut retrouver quelques-uns. Sans flottante, noire comme un corbeau. En lisant dans Nombre chapitre 6, nous lirons le verset 5. Pendant tous les jours du vœu de son Nazaréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est séparé pour être à l'Éternel. il sera saint, il laissera croître les boucles des cheveux de sa tête. Est-ce que justement cela, en parlant justement de la vigueur de ces boucles noires, bon, pour des gens, pour des plus âgés, on dit que souvent c'est, ça devient gris, ces cheveux. Voyons justement cette éternelle jeunesse du Seigneur dans ces boucles noires. Est-ce qu'on ne voit pas aussi sa totale consécration? Mieux encore que les types de l'Ancien Testament, que ce soit Samson et autres, eh bien, ces boucles sont flottantes, donc abondantes. Consécration totale, pleine, noire comme un corbeau. Et nous voyons cela avec le Seigneur. Nous le voyons dans sa consécration. Ma viande, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il avait constamment dans son cœur la volonté de son Père. Il avait constamment devant ses yeux l'œuvre pour laquelle il était venu. Et donc, justement, c'est visible. Mais quand nous voyons justement, et nous avons un peu parlé de ce Jean 4, quand nous voyons cette Samaritaine à ce puits, voir une personne qui se donne autant de mal pour la rencontrer, eh bien, forcément, ça porte du fruit, ça bouillonne un peu dans le cœur, pour rejoindre un peu les paroles des psalmistes, le fils de Corée. Ça bouillonne et elle a envie d'aller en parler à d'autres, parce qu'elle a vu que quelqu'un s'est enfin tourné vers elle, mais avec un autre regard. Et ce sont ses yeux qu'elle voit après. Ses yeux comme des colombes près des ruisseaux d'eau. Nous voyons et nous connaissons la sensibilité des colombes. Nous voyons et nous connaissons justement, mais aussi cette pureté qui va de pair, qui traverse tous les traits du Seigneur. Mais cette compassion dans le regard, tendresse, compassion, pureté en même temps. Elle ne dit pas à la femme samaritaine, non, tout ce que tu fais, c'est bon, moi j'apprécie, c'est les hommes qui sont contre toi. Non, il lui dit la vérité, mais avec une telle compassion, un amour tel que, eh bien, elle lâche prise. Elle lâche même son récipient, mais pour aller raconter. Parce que justement, elle a entendu et elle a vu quelque chose d'admirable près des ruisseaux d'eau. Justement, en lien toujours avec cette eau, on nous a parlé de l'eau aussi comme cette parole qui rafraîchit, mais qui donne aussi la force. Nous sommes dans ce désert du monde. On a besoin de se réhydrater constamment. Et donc, ces yeux du Seigneur sont là pour nous regarder toujours avec compassion. Ces yeux qui, fixant Pierre après son reniement, eh bien, produit justement ces pleurs amers qui après produiront plus tard aussi cette repentance à salut. Près des ruisseaux d'eau, baignés dans le lait, bien enchâssés. On retrouve justement cet équilibre avec le Seigneur. On retrouve cet équilibre et en lisant au chapitre 32 du psaume, verset 8. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Ayant mon œil sur toi. On a parlé justement de ces yeux qui nous regardent. Ils ne nous regardent pas pour nous épier, comme les hommes nous regardent pour voir quelles tâches on a encore ramassées sur le chemin pour mieux nous enfoncer dans la culpabilité ou nous dénigrer. Non, mais il nous regarde, comme on l'a dit, pour nous montrer qui nous sommes, comment nous sommes devant lui, mais aussi pour nous montrer le chemin à suivre. Mais c'est toujours, toujours par amour, avec cet équilibre-là que le Seigneur a montré sur cette terre. Bien enchâssé, baigné dans le lait, bien enchâssé, bien classé. Comme pour dire que, eh bien, ce n'est pas aujourd'hui et puis demain ça va faire défaut. C'est toujours avec la pérennité de son amour ou de ses œuvres d'amour pour nous. Ses joues comme des parterres d'aromates, des corbeilles de fleurs parfumées. Ses lèvres des lys distillant une myrrhe limpide. On a parlé de sa tête, on parle de ses yeux, on parle de ses joues, on parle de ses lèvres. Mais tout cela, justement, combien nous l'avons aussi dit dans nos prières, combien cela a reçu de la part des hommes le mépris que l'on ne saurait nommer, dessoufflé, une couronne d'épines, des moqueries de la part de ceux-là même qu'il était venu justement secourir, qu'il était venu justement pour sauver. Et on a fait allusion à ce psaume 45, on peut le lire. Nous lirons verset 2. Bon, on peut lire les deux premiers versets. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Ma langue est le style d'un écrivain habile. Tu es plus beau que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours. Voilà ce que les fils de Corée, bien longtemps après avoir été objet de cette grâce, avaient gardé et peuvent chanter. Voilà ce que, justement, nous aussi, nous voyons des siècles après que ses joues aient été l'objet de mépris, de souffler plutôt, de temps de souffrance, nous voyons justement un parterre d'aromates, toutes ces belles senteurs qui nous montrent cet abaissement, cette consécration pour Dieu qui a fait qu'il se retrouve là pour nous. Et quand on se souvient, quand on voit cela, eh bien combien nous ne pouvons être que reconnaissants, combien nous pouvons, comme la tsunamite, mais réveillée, eh bien, chanter les gloires de celui qui nous a aimés. Ses lèvres, des lys, distillant une myrrhe limpide, justement. C'est vrai qu'il y a de la beauté, c'est vrai qu'il y a toutes ces perfections, mais n'oublions pas que cela n'aurait suffi s'il n'y avait eu les souffrances, s'il n'y avait eu ce côté amer de la douleur que la myrrhe nous rappelle ici, et la croix. C'est le même qui, quoique plus beau que les fils des hommes, eh bien, a dû être malédiction. Les deux vont ensemble et cela montre encore une fois cet équilibre que le Seigneur nous donne de considérer dans sa personne. Ses mains des rondelles d'or, on a parlé justement déjà de l'or, mais bien sûr, toute sa personne, on a dit qu'elle est désirable, bien l'or aussi, de ses mains, tout ce qu'il touchait, il a été dit, mais il fait tout bon. Autrement, tout ce qu'il fait est bon, est bien. Tout, absolument tout. Quand il ne touche pas pour toucher, comme pour de nos jours, on sait faire des gestes, mais vides de sens. Lui, quand il touche, c'est pour entrer dans nos situations, c'est pour toucher là où ça fait mal, mais pour que lui aussi puisse avec nous d'une certaine façon, dans toutes ces douleurs-là, être aussi en douleur avec nous pour mieux nous en sauver. Et donc ses mains, des rondelles d'or, dans l'aspect de rondelles un peu de rang circulaire, on voit justement qu'il n'y a pas de... qu'il y a cette continuité, qu'il n'y a pas de fin à ce qu'il fait de bon, de beau. Luc pouvait dire qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. C'était constamment faisant du bien. Il n'y avait pas de répit pour le bien qu'il faisait. Et ce sont ces mains-là qui toujours, en arrêtant, on a pris l'exemple justement de cette veuve de Naïn, en arrêtant cette bière, en arrêtant ce cortège plein de tristesse, de malheur, eh bien, pouvait en faire changer définitivement de direction en remplissant de joie. Où sont enchâssés des chrysolites? Son ventre en ivoire poli, couvert de saphir. On voit qu'il y a beaucoup de matières précieuses, chacune d'elles a son importance. L'ivoire est déjà une matière, on peut dire, douce à tenir, très douce au toucher. On ajoute poli, comme pour dire qu'il n'y avait pas sur ses affections, sur les pensées du Seigneur, il n'y avait pas d'irrégularité. C'était tellement régulier, tellement poli, justement. Couvert de saphir, ses jambes, des colonnes de marbre blanc. Le marbre dont nous connaissons justement la robustesse, eh bien c'est cette pierre, si on peut dire, c'est ce matériau qui est utilisé pour montrer cette marche ferme. On nous est parlé justement de cette fermeté dans la marche du Seigneur, quand il dresse résolument sa face comme un caillou vers Jérusalem. Il sait là où il va, mais il le savait déjà bien avant, quand il entre dans ce monde. Mais rien pour autant ne l'arrête, rien pour autant ne le dissuade face à cette ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc reposant sur des socles d'or fin. Son port comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais est plein de douceur et toute sa personne est désirable. Toute sa personne est désirable. C'était au chapitre 53 que nous connaissons aussi d'Ésaïe, excusez-moi. Il nous est dit, il montera devant lui comme un rejetant et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat, comme nous le voyons. Il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Voilà un peu le descriptif que pouvait faire le peuple du Seigneur, ne voyant pas justement cette beauté intérieure, cette beauté morale, mais cette beauté divine aussi de sa personne. À nous, la grâce est donnée de la voir, de la considérer, de la contempler, d'en chanter quelques-unes, quoique faiblement. Nous savons que c'est des choses, comme on l'a aussi répété, où on s'en approche pour beaucoup les pieds déchaussés et on se tient loin, tellement elles dépassent ce que nous pouvons en comprendre. Mais nous voyons justement qu'une telle personne nous est présentée, une telle personne désirable nous est présentée. La tsunamite s'était réveillée et après, elle a pu dire ou faire justement cet éloge de celui qui remplissait ses affections, de celui qui remplissait ou qui devait remplir son cœur. Et nous aussi, justement, combien nous devons, comme l'avaient dit ces deux lépreux en leur temps, nous ne ferons pas bien si nous nous taisons face à une telle personne, face au Seigneur qui, dans toute sa personne désirable, veut que nous aussi, nous puissions et le considérer, le contempler, mais aussi le chanter, pas seulement les dimanches autour des frères, chose bien sûr appréciable, mais dans notre vie de tous les jours, être un peu comme cette louange, cette lettre aussi de Christ que tous peuvent lire partout où nous sommes, et bien parce que, comme on l'a aussi dit, plus nous le regarderons, plus nous le considérons, plus nous verrons ses gloires, et bien plus nous en comprendrons l'importance, nous en apprécierons aussi la valeur, et nous aussi, nous en serons quelque peu changés ou nous ressemblerons, nous en approcherons, selon la mesure de grâce qu'il se plaira à nous donner. Voici un peu cet exercice qu'a eu en son temps la tsunamite, réveillée de son sommeil, passant par des exercices, mais après, touchée, eh bien, présente le bien-aimé de son cœur. Ne nous taisons pas, chers frères et sœurs, par rapport à notre Seigneur, tant dans notre milieu, dans nos réunions, que partout où il se plaît à nous placer, dans nos familles ou dans nos lieux d'exercice ou dans nos quartiers. Parce que justement, de l'abondance du cœur, on arrivera à parler. Puissions-nous nous remplir du Seigneur.